Chaque dimanche, dès 8h30, l'amour vaincra sur Tendance Ouest.
Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien Dardemar, prêtre religieux catholique, et aujourd'hui dans cette capsule L'amour vaincra, je vous emmène loin. Nous parlons de l'hindouisme et du bouddhisme. Je vais vous parler de trois mots qui nous feront voyager, le samsara, le dharma et le karma, et puis ensuite nous passerons à l'évangile du jour. Aujourd'hui, nous voyageons du côté de l'Asie, de l'hindouisme, du bouddhisme, avec un mot qui est peu utilisé et qui est pourtant central dans les religions de type asiatique. On appelle ça le samsara, comme ça se prononce, S-A-M-S-A-R-A. Le samsara, c'est le cycle infini de naissance, de mort, et puis de renaissance, et puis à nouveau de mort, et puis à nouveau de renaissance, et à nouveau de mort. Bref, le cycle des réincarnations. Vous vivez une première fois et puis ensuite vous mourrez et votre âme se réincarne dans un deuxième corps, puis dans un troisième corps, puis dans un quatrième corps, puis dans un dixième corps. Parfois, selon certaines traditions, en montant l'échelle des êtres vivants, passant d'animal à homme ou bien parfois en leur descendant, mais toujours en enchaînant les réincarnations de cette roue qui sans cesse tourne et vous n'en pouvez plus. Votre rêve, c'est de quitter, de briser le samsara, d'y échapper, en allant dans la cessation de toute souffrance et de toute existence, en rejoignant enfin le nirvana. Bref, un mot qui n'est peut-être pas connu, mais qui en fait vous fait voir les choses de manière différente. Pour nous, occidentales, la réincarnation est parfois vue comme une bonne chose, parce qu'on pense inconsciemment que c'est un moyen d'échapper à la mort. Mais pour les Asiatiques, le bouddhisme, l'hindouisme, avec le samsara, on n'est pas loin de l'enfer, ou en tout cas d'une malédiction pour laquelle il faut trouver une solution. Nouveau mot qu'on appelle cette fois-ci le dharma, qui vous vient encore de ces religions asiatiques, D-H-A-R-M-A. Le dharma, c'est le devoir, la loi naturelle, l'ordre cosmique, la vérité éternelle. D'une certaine manière, dans notre tradition occidentale à nous, pour ceux qui ont fait de la philosophie, on n'est pas loin de ce que le stoïcisme appellerait le logos, ou de ce que le christianisme appelait la loi naturelle. La loi naturelle, c'est pas la loi biologique, la loi naturelle, c'est pas loin du dharma, c'est-à-dire la raison qui vous montre le chemin de la vertu et du devoir. Bref, un homme est accompli dans ces religions-là en accomplissant son dharma. Dans la religion occidentale, on dirait qu'un homme devient juste en accomplissant le dharma. Et pour un chrétien, on vous dirait que c'est par la foi que Dieu lui donne enfin d'accomplir le dharma et d'aimer Dieu. Bref, encore un nouveau mot qui vous fait voyager et qui cette fois-ci permet de tisser des liens entre différentes traditions. Nous avions le samsara, nous avions le dharma et maintenant nous avons le karma. Le karma, cette fois-ci, c'est plus connu. Peut-être même l'avez-vous utilisé en lui disant c'est son mauvais karma qui l'a rattrapé ou bien c'est son bon karma qui l'a rattrapé. Karma avec un K. Cette fois-ci, le karma consiste à dire que vos actions vous suivent et que c'est vous qui allez payer les conséquences de vos propres actions. Que quand vous faites des choses mauvaises vont vous arriver. Et que quand vous faites des choses bonnes vont vous arriver. Dans la religion chrétienne, est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Pas tout à fait. La religion chrétienne est assez attentive à vous dire que malgré les apparences, la vie n'est pas souvent juste, qu'il y a des bonnes choses qui arrivent aux gens mauvais et qu'il y a aussi des mauvaises choses qui arrivent aux gens justes. Et que si le karma existe, c'est plutôt à un niveau collectif. C'est-à-dire que c'est sûr que si jamais un peuple fait toujours de mauvaises choses, il finira par lui arriver des mauvaises choses. Mais à un niveau individuel, c'est pas dit que le karma soit aussi automatique. Peut-être que d'un point de vue chrétien, l'équivalent du karma, ce serait ce qu'on appelle le mérite. C'est-à-dire que si jamais vous mettez votre cœur pour faire des choses bonnes dans la foi, Dieu va vous récompenser en élargissant l'espace de votre cœur et en vous en grandir dans le chemin de la vertu, de la sainteté et donc du bonheur. Nous passons à l'évangile du jour, nous sommes dans Marc chapitre 14. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire des préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie deux de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le et là où il entrera, dites au propriétaire. Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville et ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous, et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. » Et après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Nous fêtons en ce jour la solennité du Très Saint Sacrement. Et vous sentez à ce titre-là que nous atteignons ici comme le cœur de notre religion. Très Saint, ça veut dire que vous atteignez ici quelque chose de l'ordre du mystère qui est réservé à Dieu. Et sacrement qui désigne ici les rites qui ont été laissés par Jésus, institués par notre Sauveur lui-même. C'est la messe. La consécration du pain et du vin qui, au cours de la messe, deviennent le corps et le sang de Jésus. Et je dis que c'est le sommet de la religion extérieure parce que c'est le geste ultime que Jésus nous a demandé de faire dimanche après dimanche lorsqu'il nous a dit « Vous ferez cela en mémoire de moi ». C'est encore le geste ultime parce que c'est celui que Jésus a choisi pour exprimer ce qu'il allait vivre sur la croix. Lorsqu'il a été crucifié, il n'a pas vraiment eu, si vous me permettez de le dire, son mot à dire pour expliquer quelle signification il allait lui donner. Sachant cela, Jésus, la journée d'avant, a dit « Voilà ce que je vais vivre et voilà pourquoi je le vais vivre ». C'est-à-dire qu'il a choisi son dernier repas pour montrer que c'était par amour pour nous donner sa vie, qu'il allait mourir sur une croix. Donc en fait, vous atteignez là non seulement le cœur de la religion, mais aussi le cœur de la révélation. C'est-à-dire qu'à travers le corps et le sang de Jésus librement donné par amour pour nous, vous avez le visage ultime de Dieu qui s'offre à vous. Jésus vous a aimé jusqu'à en mourir et c'est cela ce que nous représentons messe après messe à travers le pain et le vin consacrés. Ça, c'est pour la religion extérieure, le rite que Jésus nous a donné. Mais la religion intérieure est aussi atteinte. Puisque en mangeant à ce corps et en buvant à ce sang, nous sommes unis à Jésus. Et en étant unis à Jésus, nous sommes unis à Dieu. Unis à Dieu par notre corps, le pain et le vin que nous mangeons, qui sont le signe du corps et du sang du Christ, à travers notre âme, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, à travers notre volonté, puisque nous voulons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, enfin bref, c'est la communion. Donc, vous avez ici vraiment le cœur de la religion chrétienne et on comprend pourquoi est-ce que l'Église, alors, appelle cela la solennité du Très Saint Sacrement. Alors, pour aller un petit peu plus loin, le corps et le sang du Christ. Petite parenthèse d'ailleurs, quand vous communiez au corps du Christ, vous communiez et à son corps et à son sang. Puisque à travers l'hostie, c'est Jésus tout entier qui se donne à travers vous. C'est simplement d'un point de vue symbolique où on sépare le corps avec l'hostie, le sang avec le vin, mais derrière les espèces consacrées, c'est-à-dire derrière les apparences du pain et du vin, il y a tout entier Jésus qui est présent dans le sang, tout entier présent dans le corps et dans l'hostie. Bref, fin de la parenthèse, j'étais simplement pour les gens qui sont un peu déçus de ne pas pouvoir communier au sang du Christ. Pas de panique, Jésus vous est entièrement donné. On distingue, pour revenir au corps et au sang du Christ, plusieurs modes de présence. Il y a d'abord la présence symbolique. L'hostie, le vin, représente symboliquement le corps de Jésus qui se vide de son sang. Bon, ça c'est le premier niveau de présence, la présence symbolique. On devine à travers le pain et le vin, Jésus qui donne sa vie sur la croix. Ok. Deuxième niveau, ce qu'on appelle la présence virtuelle. C'est-à-dire que dans l'hostie et dans le pain, il y a contenu la puissance même de Jésus et de la divinité. Ça veut dire que le pain et le vin ont le pouvoir, si vous le communiez avec foi, de vous donner la vie éternelle. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, moi en lui, et aura la vie éternelle. Donc deuxième niveau, la présence virtuelle, virtuelle ici au sens du latin virtus, la puissance, c'est-à-dire que dans l'hostie, il y a la puissance de Jésus, qui est capable de faire des miracles. Troisième niveau de présence, ce que l'on appelle la présence réelle. C'est-à-dire qu'au cours de la consécration, le pain et le vin deviennent tellement unis au corps et au sang du Christ qu'on ne peut plus les séparer et que, tout simplement, derrière les apparences du pain et du vin, c'est maintenant Jésus qui est réellement présent avec son corps et avec son sang. Ce qu'on appelle la présence objective, c'est vraiment le corps du Christ. C'est vraiment le sang du Christ, parce que cette union est devenue tellement parfaite que derrière, ça a changé. Le pain est devenu le corps du Christ. Je vous dis tout cela pour vous rappeler à quel point Jésus vous a aimé et qu'il s'est entièrement donné pour vous. Et que ne soyez pas trop déçus de ne pas avoir vécu au premier siècle au temps des disciples, vous n'êtes pas moins gâtés que eux. Eux l'ont peut-être vu avec les yeux de la chair, vous, vous le voyez avec les yeux de la foi, mais c'est le même Jésus que vous pouvez toucher, que vous pouvez manger, avec qui vous pouvez vivre, lui qui a dit « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ». Jésus-Christ est là et il vous attend à la messe. Bonne solennité du Très-Saint-Sacrement.
L'amour vaincra, votre rendez-vous du dimanche avec le frère Paul Adrien. Retrouvez tous ses contenus audio et vidéo en tapant frère Paul Adrien sur YouTube, Instagram, Facebook et TikTok. Et sur le site internet et le réseau Discord en tapant l'amour vaincra.